Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Bonjour à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. Et cette réussite peut être dans des domaines vraiment très variés. Que ce soit l'entrepreneuriat, le blogging, le journalisme, la gastronomie, la finance, je vais brasser vraiment très large parce que l'objectif, c'est de partager avec vous les clés de la réussite de mes invités, d'avoir des conseils concrets, leurs trucs pour être plus productifs, leur routine. Parce que je suis convaincue qu'il y a bien des principes réplicables pour arriver au succès et que vous allez pouvoir les appliquer à vos propres projets. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Roxane Varza. Roxane est vraiment une personne à part dans le milieu des startups en France. À peine 30 ans, elle dirige aujourd'hui Station F, vous savez, le fameux campus géant de startups créé par Xavier Niel. Avant cela, Roxane a été rédactrice en chef du magazine TechCrunch France et fondatrice du blog sur les startups Tech Baguette. Tout ça avant 30 ans. Bref, vous comprendrez pourquoi elle est considérée comme l'une des personnes les plus influentes du milieu de la tech en France. Et pour tout vous dire, quand j'ai eu l'idée de créer Crème de la Crème, j'ai tout de suite pensé à Roxane. Je savais que son interview serait juste géniale. Je me suis dit ça parce qu'au fond, il y a peu de personnes qui, comme Roxane, ont vu autant de startups dans leur vie. Via son expérience chez Microsoft Ventures d'abord, via TechCrunch, via l'association Girls in Tech qui promeut les femmes dans le milieu de la tech, et maintenant chez Station F, bien sûr, elle a rencontré des milliers et des milliers d'entrepreneurs. Elle les a vus pitcher, elle les a conseillés et elle a côtoyé les plus grands hommes d'affaires français, comme Xavier Niel pour ne pas le citer. Bref, en plus de parler de son parcours, d'outils de productivité, parce que je peux vous dire qu'en une journée, Roxane abat beaucoup de boulot et elle va nous expliquer comment elle fait, elle me raconte ce qu'elle a identifié comme des facteurs clés de succès pour créer son entreprise. Vous allez voir, Roxane est précise et percutante. J'ai adoré l'interviewer. Je vous en dis pas plus. Et je laisse la place à ma conversation avec Roxane Varza. Bonjour Roxane.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir ici à Station F.
Bah merci à toi.
Je suis très très contente de t'avoir. En fait, pour tout te dire, depuis que je me suis décidée à me lancer dans le podcasting, j'avais très envie de t'écouter et d'apprendre à mieux te connaître parce que je suis très admirative de tout ce que tu as fait, de ton parcours qui est assez incroyable, je trouve. Notamment, moi, ça m'a toujours fasciné le fait que tu quittes les États-Unis et que tu viennes habiter en France. Enfin, finalement, tu as tout recréé à partir de zéro et ça, je trouve ça... Hyper impressionnant, non mais c'est vrai. Mais bon, je vais pas commencer tout de suite par te parler de Station F et tout ça. Je me suis dit que pour apprendre à mieux te connaître, il fallait que je commence par une question un peu plus originale. Et donc j'ai vu sur ton fond d'écran de téléphone que tu as Snoop Dogg en fond d'écran. Alors est-ce que tu peux parler de ça ?
J'adore, tu me balances comme ça tout de suite. Oui, en fait, je suis très fan de rap. Depuis un assez jeune âge, je pense que j'avais peut-être 9 ou 10 ans la première fois que j'ai écouté du rap. C'était mon cousin, en fait, il est aussi dans le milieu tech aux États-Unis. Il travaille aujourd'hui chez Uber. Et en fait, il m'a fait écouter des chansons. Je pense que pour lui, c'était une blague. Uh-huh. Écouter une fille de 10 ans un peu de rap.
C'est
clair. Moi, j'ai adoré. Je suis devenue grand fan. J'ai écouté, je pense à l'époque, il y avait encore Tupac et Notorious et tout ça. Et je suis restée grand fan forcément de tout le monde. Mais Snoop Dogg, je trouve qu'il y a un style, il y a un caractère,
c'est
il y a
clair.
Quelque chose, il y a sa façon de parler. Il fait du rap, mais j'ai vu qu'il commence à être assez polyvalent dans ses expériences. Donc, il me fait marrer. Voilà, en gros, c'est ça. Et je trouve que c'est juste quelque chose qui me fait rire quand je vois sa photo, quand je l'entends.
Ouais, il est assez
c'est pour
marrant.
Ça que je l'aime.
Et est-ce que tu imposes à toutes les équipes de Station F d'écouter du Snoop Dogg?
Forcément, on commence tous les jours avec...
c'est la petite routine du matin, quoi.
Non, pas du tout. Mais c'est un peu... Enfin, je dis ça depuis le début du projet. Pour moi, c'est un peu, entre guillemets, un rêve de faire venir Snoop Dogg à Station F. Mm. Pas juste pour la visibilité, mais aussi parce que c'est aujourd'hui quelqu'un qui investit dans les startups.
Ouais,
c'est un
vrai.
Peu improbable. Et je trouve que c'est bien d'avoir des personnes comme ça qui ne sont pas forcément du secteur, qui commencent à prêter l'attention, de l'argent, du temps, même si son secteur, c'est pas forcément le secteur le plus apprécié par tout le monde, le weed tech. Enfin, je trouve que voilà, c'est quelque chose assez original.
Bah, écoute, j'espère qu'il va écouter ce podcast peut-être et qu'il se décidera en français. Il faut y croire. Écoute, il faut y croire. Bon, et alors je voulais revenir un petit peu sur ton enfance aussi et sur le fait que tu es américaine à la base, que tu viens de la Silicon Valley. Et alors, il me semble avoir vu que même si tu venais de la Silicon Valley, finalement, ta famille n'était pas du tout dans le milieu tech, que toi-même, tu ne connaissais pas grand-chose à la base. Et donc, je voulais comprendre un petit peu comment avait été ton enfance et comment tu es arrivée à tomber dans la marmite de la tech, parce que finalement, c'est assez improbable.
Pas mon enfance, j'ai passé quasiment toute ma vie à Palo Alto avant d'arriver ici. Et c'est marrant parce que j'étais entourée par la tech, mais ça m'avait pas trop marqué. Enfin, mon père, il était aussi ingénieur. Je me rappelle quand j'étais assez petite, il voulait montrer comment on fabriquait des ordinateurs, comment on montait un ordinateur. C'était, regarde, c'est la carte mère. Et voilà, j'étais pas du tout intéressée par ça. Et c'est vraiment après avoir fait les études, mon premier job, c'était à Business France à San Francisco. Et c'était via, en fait, ma passion pour la France que j'ai découvert la tech. Et c'était les gens, c'était pas la tech.
C'est ça qui est
fou. Qui m'intéressait. C'était des gens, je voyais des gens qui étaient passionnés, brillants, optimistes, et je trouvais ça juste génial.
Parce que toi, quand tu étais à Palo Alto, donc j'imagine, à l'époque, c'était pas encore aussi fort, la tech, c'était quand même les débuts, enfin, malgré tout...
Je pense qu'il y avait, enfin, mon père, il avait passé quelques années chez HP, je pense qu'il y avait un peu les premières marques, je me rappelle de quand quelqu'un m'a parlé de Google pour la première fois, c'était quand j'étais au lycée, j'avais des potes qui me disaient, mais tu fais des recherches sur Yahoo, mais regarde Google, le nom, il est tellement drôle, et c'était ça la raison.
C'est drôle.
Et voilà, c'était des petites histoires comme ça, Facebook, c'était un peu pareil quand j'étais à la fac, mais t'as raison, en fait, c'était pas non plus à l'époque, c'était pas encore connu comme il est aujourd'hui, comme la Silicon Valley dont on parle.
Et alors toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ?
Je pense que la première chose que j'ai dit à ma mère, c'était que je voulais être chauffeur de camion poubelle à l'âge de 2 ans. Non, mais plus sérieusement, je pense que j'ai étudié le français à l'école. J'étais toujours un peu intéressée par la France. Je savais pas du tout ce qu'on pouvait faire avec. Mon père disait toujours, au mieux, tu seras prof. Malheureusement, pas une bonne prof parce qu'il y a plein de Français qui enseignent le français et ils seront meilleurs que toi. Donc moi, je disais à mon père, mais juste pour lui faire plaisir, que je vais être journaliste.
D'accord.
Et après, je me suis retrouvée à faire un peu de journalisme avec TechCrunch, mais c'était complètement le hasard, c'était pas du tout cherché.
Mais en fait, au final, c'était plus le français qui t'intéressait. Ça, il y avait une raison pour laquelle t'es tombée dans le français ou juste...
J'arrive pas à l'expliquer. Mes parents, ils sont d'origine iranienne, ils ont passé beaucoup de temps là-bas. Les Iraniens sont assez francophiles. Ouais. Ma mère, elle avait des petits bouquins de français dans la maison. Tout le monde aux États-Unis apprend l'espagnol, je voulais faire différemment. Enfin, je pense
qu'en plus, aux États-Unis, c'est vrai, sur la côte ouest, en général, on apprend l'espagnol.
L'espagnol, français. Tu veux apprendre le français, mais pourquoi?
Donc, tu veux habiter au Québec?
Ouais. Exactement. Et je pense, mais moi, je voulais juste faire quelque chose de différent. Et je pense que ça a commencé au lycée. Je disais à ma famille, je veux aller m'installer en France un jour.
D'accord. Ah oui, donc tu savais que tu voulais t'installer en France. Il y avait peut-être des livres que tu avais lus, c'était la littérature française qui t'intéressait.
La littérature, je pense que j'avais une appréciation, mais ce n'est pas forcément parce qu'on a lu un livre qu'on veut quitter son pays. Donc je pense qu'il y avait plein d'éléments, l'histoire, la culture, c'était juste quelque chose qui m'attirait. Et voilà, parfois on est juste attiré par des choses, on sait pas pourquoi.
Écoute, c'était le destin. Et donc, suite à ça, tu as cette attirance et tu décides de franchir le pas et d'aller faire tes études en France.
Exactement.
Et donc, tu peux m'en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu es allée à Bordeaux, c'est ça ?
Ça a commencé avec une année d'échange à Bordeaux. C'était en 2005-2006. C'était très, très difficile parce que j'avais commencé le français quand j'étais au lycée aux États-Unis, mais le prof était américain.
Ouais.
Et quand je suis arrivée ici, j'ai compris qu'en fait, on n'a rien appris à l'école. Ouais. Je ne savais pas du tout comment m'exprimer. C'était très difficile même pour demander. Je savais que tout le monde pouvait comprendre un minimum d'anglais, mais c'est pas, à l'époque, c'était pas comme à Paris aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Et les gens, quand on essayait de parler un petit peu anglais, c'était genre non, on s'arrête tout de suite. Donc, ça m'a mis un peu de temps. J'ai fait peut-être même une petite dépression à Bordeaux parce que je trouvais aussi juste la culture est assez différente. Les gens, c'était... Enfin, on n'aborde pas les gens de la même manière. Les gens, ils ne se disent pas forcément bonjour dans la rue.
Oui, c'est pas très friendly, forcément.
Non, le service client, c'est complètement différent en France qu'aux États-Unis. Ça m'a un peu frappée au début. Et aujourd'hui, c'est des choses que j'apprécie énormément ici. Mais à l'époque, je pense que ça m'a fait un choc. Et petit à petit, je commençais à apprendre la langue, à pouvoir dire des choses. Mais ça a mis au moins 6 mois pour se mettre en place.
Ouais, j'imagine. Et du coup, tu prenais des cours quand même pour apprendre un petit peu ou tu as vraiment appris complètement sur le tas? Parce que je suis hyper intéressée, en fait, justement. Enfin, du coup, tu parles français, iranien et anglais absolument parfaitement, on peut l'entendre là. Et je trouve ça assez fascinant de se dire qu'on a la capacité d'apprendre autant de langues. Tu l'as appris complètement sur le tas et assez rapidement, j'ai l'impression. T'as des...
Pour moi, c'était
comment
très
t'as
long.
Fait, quoi?
Pour moi, c'était très long. Je pense que, aussi, quand on apprend une langue, forcément, j'ai fait des cours, mais c'est pas forcément ce qu'on apprend en cours qui est utile, qui est pratique. Et les gens, ils se parlent très différemment, en fait. Ils ont un langage familier, ils mettent beaucoup de, je sais pas, de jargon différent dans les phrases. Enfin, parfois, ils mélangent anglais et français. Enfin, il faut pouvoir bien comprendre. Et le truc qui était très frustrant en français, c'est tous les, comment on dit ça, les abréviations.
Ah oui.
Vous en avez, mais des tonnes et je comprenais rien.
C'est sûr. Oui, oui, puis on n'apprend pas ça à l'école en plus. Quoi.
Exactement, c'est, comme... c'est un vocabulaire à part, donc il faut déjà apprendre le français, ensuite il faut apprendre tout ça. Donc c'était très très difficile, je pense que j'ai passé même plusieurs mois où je faisais des soirées par exemple, et je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas parler aux gens, donc je pouvais juste écouter. Et au bout d'un moment, je pense qu'on fait on dépasse quelque chose et on arrive au bout d'un moment à commencer à parler.
J'imagine qu'il y a aussi un côté juste, il faut prendre confiance en soi et oser aborder les gens en sachant que tu vas faire des fautes, en sachant que tu vas pas parler, qu'ils vont pas forcément te comprendre, mais bon, tu peux un petit peu baragouiner aussi en anglais. Ouais. Ça a été un cap que t'as pris la décision à un moment donné de commencer à faire ça ou c'est venu naturellement?
Ouais. En fait, je me forçais même, parce que ce qui m'est arrivé par la suite, c'est que j'ai passé un an ici, je suis rentrée à San Francisco, en Californie, et j'ai découvert que je croisais beaucoup de Français, mais que tout le monde me parlait en anglais. Et je dis pas, si je veux garder, si je veux m'améliorer, je suis obligée de parler en français. Et en fait, c'est la langue qu'on décide de parler avec une personne. Première langue, première phrase qu'on dit, qu'on garde comme langue. Donc, j'ai dit, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vais me forcer. Et les pauvres, je pense qu'ils comprenaient rien de ce que je disais. Mais voilà, je me forçais comme ça pour apprendre, quoi.
C'est top. Et donc, tu me disais que ça avait été un petit peu difficile au début. Moi, j'avoue que je suis assez, très admirative du fait que tu aies réussi à te plonger dans une nouvelle culture sans finalement connaître grand-chose et grand monde dans ce nouveau milieu. Surtout que tu n'as même pas choisi d'aller à Paris, tu étais à Bordeaux, qui est une très belle ville, mais où j'imagine que tu avais encore moins de contacts. Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait au début pour te créer un petit réseau, commencer à... Alors, je ne vais pas te demander comment tu t'es fait des amis, mais quand même, au début, quand tu connais strictement personne, j'imagine que ce n'est pas facile et qu'il n'y a peut-être pas des techniques, mais il y a des... La raison pour laquelle je te pose cette question, c'est aussi que assez tôt après ça, tu as créé Tech Baguette. Là aussi, tu t'es créé un super réseau. Je trouve que c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question de quand tu arrives quelque part où tu connais strictement personne, comment est-ce que tu arrives à partir de zéro et en fait à te créer ton propre réseau, devenir une référence finalement dans un domaine?
En fait, je pense que si on regarde l'année à Bordeaux, c'était pas vraiment ça qui m'a permis de créer un réseau. C'était vraiment initiation à la culture,
à la langue.
Je suis rentrée en Californie et j'ai terminé mes études et ensuite j'ai travaillé 2 ans à San Francisco. Et c'est là où j'ai commencé à créer mon réseau, mais c'était plutôt des Américains de la Silicon Valley à l'époque. Mais du coup, voilà, j'ai pu rentrer en contact avec des boîtes à l'époque, Facebook, Twitter et compagnie. Ils n'avaient pas encore de filiales en France. Donc, j'ai commencé à côtoyer un peu les gens du milieu là-bas. Et ensuite, quand j'arrivais ici pour faire le master, j'ai décidé de créer un blog. C'était pas forcément pour rencontrer des gens à l'époque, mais ça a donné issue à ça. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée ici et j'ai constaté qu'il se passait des choses en France et personne n'était au courant parce que tout le monde à San Francisco disait le contraire. Les gens en France, tout était écrit en français. Donc, je me disais, je vais juste écrire un blog pour... juste pour raconter ce que je vois. Et en fait, je pense que ça m'a ouvert tellement de portes. Les gens, en fait, ils voulaient vraiment prendre la parole, ils voulaient partager leurs expériences. Ça m'a permis de rentrer en contact. En fait, je me disais, ça fait une bonne excuse pour aller dans des conférences à des événements.
Bien sûr.
Je peux parler avec des gens et dire, est-ce que ça ne te dérange pas si je cite telle ou telle chose sur mon blog? Enfin, je voyais des choses comme ça. Ça a duré 2 semaines parce que 2 semaines après, j'ai commencé à travailler pour TechCrunch et ça a ouvert toutes les portes.
D'accord.
Donc, c'est vraiment TechCrunch qui a tout changé.
Et ça, TechCrunch, t'as réussi, enfin, tu t'es fait démarcher par TechCrunch suite quand même à Tech Baguette.
Exactement, ouais. D'accord. Donc, Tech Baguette, mon père m'a dit, c'est une blague, personne va lire ce truc, t'es pas du tout expert du sujet. Tu vois, donc c'était, je me disais, j'ai quand même envie de tester.
Et justement, quand tu te lances dans quelque chose comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Finalement, comme tu le dis, t'étais pas experte, tu t'y connaissais quand même un peu parce que t'avais bossé quand même 2 ans aux États-Unis dans le milieu des startups. Mais comment tu t'y prends au départ quand tu... quelles ont été un peu les premières étapes, quoi, finalement, quand tu t'es lancée dans Tech Baguette? Tu t'en rappelles?
Je pense que quand j'ai monté le site, c'est marrant parce que c'était le soir du Nouvel An et moi, j'étais chez moi en train d'écrire mon
T'avais rien à faire et du coup,
je dis, je vais pas faire la fête cette année. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le site, j'ai écrit un premier billet et après, j'ai contacté plein de gens dans mon réseau. C'était plutôt des amis, la famille et tout ça. On commence par ces personnes-là et je pense que c'est assez similaire quand on monte une boîte.
Ou
un podcast. Et j'ai dit, je vais commencer à écrire un blog. N'hésitez pas à partager, à faire du feedback, me dire ce que vous en pensez. Et forcément, j'ai mes parents qui ont commencé en premier, mais après, j'avais des oncles, des tantes, et petit à petit, je commençais à avoir un peu de visibilité. Je pense que j'ai vraiment beaucoup utilisé Twitter.
D'accord.
Pour diffuser. Même si j'avais pas beaucoup de followers, je tweetais, voilà.
D'accord. Et en fait, bon, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, c'était vraiment le tout début en France de Twitter quand même. Donc, tu as été l'une des premières à utiliser ce réseau et à bien l'utiliser. Donc, j'imagine que ça a dû jouer. Et donc, suite à ça, tu as TechCrunch qui t'a contactée. Et là, tu es devenue rédactrice, c'est ça, pas à temps plein, mais occasionnellement pour TechCrunch.
Ouais. Donc, TechCrunch, c'est Mike Butcher qui m'a contactée. Je pensais que c'était une blague. Il m'a contactée sur Twitter j'ai besoin de te parler.
Comment ça se passe, quoi, quand tu as Mike Butcher qui t'appelle?
En gros, c'est Mike sur Twitter. Salut, est-ce qu'on peut se parler? Et il me dit, j'ai lu un peu ton blog. Est-ce que ça t'intéresse de travailler pour TechCrunch? Bah, forcément, oui.
Oui.
Et là, quand il est venu à Paris, je pense que c'était quelques mois plus tard, j'ai commencé sur le site en anglais et il m'a dit, bah écoute, il y a ce site TechCrunch France, est-ce que ça t'intéresse? Et je dis, bah écoute, je suis pas de langue maternelle française, mais si tu veux, on peut tenter le truc. Moi, j'imaginais qu'il allait prendre un mois, deux mois de discussion dans tous les sens, il allait peut-être me donner une réponse un jour. Le lendemain, il m'a dit, ok, go, c'est à toi.
Super, vas-y, t'es rédactrice en chef, quoi.
Et là, j'ai flippé. Franchement,
tu m'as dit que tu voulais être journaliste quand t'étais plus jeune, donc quand même, j'imagine que tu t'es posé la question de comment créer un journal et tout, mais c'est quand même autre chose de devenir rédactrice en chef, quoi.
Ouais, et ça, c'était TechCrunch France, donc je me disais, bah déjà, les lecteurs de TechCrunch, ils sont pas les plus gentils, ils sont très, très critiques, ils peuvent être très violents dans les commentaires.
C'est assez technique, en plus.
En plus, ouais, c'est des gens qui connaissent bien le sujet. Et puis en français, je me disais, bah, ça va jamais marcher. Je pense que j'ai appelé Cédric Georgi ce matin, qui travaille aussi à l'époque pour TechCrunch, et j'ai dit, bah, franchement, je vais dire non à Mike et je propose que ça soit toi. Et il m'a dit au téléphone, je pense qu'il peut-être rigolait un petit peu, et il dit, t'inquiète, je vais t'aider, on va travailler ensemble. Franchement, j'ai eu une énorme chance de travailler avec lui, et c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu confiance en moi et on a pu faire quelque chose avec TechCrunch.
Et alors, comment t'as commencé, en fait? Vous avez essayé de, je sais pas, je me rends pas compte comment ça se passe, mais vous avez bâti un peu une ligne éditoriale différente de ce qu'il y avait au UK, où vous avez dit non, c'est la même chose.
On voyait bien le style de TechCrunch US et on voyait le ton, on voyait les sujets. Mike, il m'avait aussi donné quelques guidelines, donc je voyais bien. Mais c'est très dur et je me rappelle, je pense que j'ai passé une journée entière à regarder une page blanche sur mon écran en me disant, mais c'est quoi le premier sujet?
Ben voilà.
Et j'ai flippé parce que je dis, bah, c'est vraiment là où ça commence. Et en fait, je me rappelle plus, j'avais juste pris une start-up au hasard et j'ai dit, bah en fait, il faut juste dire, tous les jours, ça va être la même chose.
Voilà. Et alors, quelle a été cette première start-up? Est-ce que tu t'en rappelles?
Si je me rappelle bien, c'était un réseau social pour animal. Je pense que j'ai trouvé un sujet un peu insolite. Je me rappelle pas très bien du premier sujet, mais je pense que c'était dans ces eaux-là.
Et tu devais t'occuper aussi un peu de la promotion de TechCrunch en France, ou c'était vraiment plus la partie contenu éditorial?
Bah, c'était vraiment contenu éditorial, mais après, j'étais la seule personne qui travaillait officiellement pour TechCrunch ici. Mmh. Donc, faire des conférences, on se disait pourquoi pas, parce que tellement ça a la visibilité, c'est dommage de ne pas faire quelque chose
bien
avec.
Sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est génial. Bon, j'imagine que du coup, tu as dû rencontrer des personnes incroyables aussi via TechCrunch.
Oui.
Donc, tu as une histoire peut-être à me raconter d'une personne que tu aurais rencontrée. Bon, après, j'imagine que ça peut être aussi via après Microsoft ou via Station F que tu as rencontré des personnes incroyables. Mais est-ce que via TechCrunch, au départ, je me dis, quand tu connaissais encore pas grand monde, qu'il y a quelqu'un où tu t'es dit, mais c'est improbable que j'arrive à rencontrer cette personne?
Y avait pas mal de gens. Pour moi, c'était déjà improbable juste de rencontrer le nom d'entrepreneur, d'investisseur. Mmh, tout le monde, tout d'un coup, c'était genre
toutes les portes ouvertes.
Non, je pense que j'avais fait un événement à Sciences Po qui m'avait marqué. Bah, j'étais étudiante du coup à Sciences Po. Et il y avait un événement à Sciences Po avec Eric Schmidt de Google qui voulait annoncer quelque chose par rapport à l'investissement de Google dans les R&D en France. Et je me rappelle que TechCrunch n'était pas invité à cet événement, mais comme j'étais étudiante...
T'as réussi à incruster TechCrunch.
Je suis allée à l'événement et je pense que ça n'a pas fait belle impression à pas mal de monde chez Google. Mais du coup, j'ai pu poser quelques questions et vraiment, d'accord, sa présence m'a aussi beaucoup impressionnée.
Ouais, j'imagine, ouais. J'imagine, c'est dingue. Et si on revenait un petit peu plus sur les méthodes, et ça m'intéresse toujours de poser des questions aussi sur les clés de facteurs de succès, c'est un peu aussi l'objectif de ce podcast. Alors, je sais que maintenant, tu n'es plus du tout journaliste ou dans le milieu du journalisme, mais quand même, tu as réussi à être rédactrice en chef de TechCrunch, donc je pense que tu as quelques petits conseils à donner. Et quelles sont, selon toi, les qualités, qu'est-ce qui a pour toi été des choses où tu t'es dit que ça te faisait progresser, ou des trucs qui t'ont aidé, si tu veux, à bien réussir à faire de bons articles, soit démarcher de bonnes personnes dans TechCrunch? Est-ce qu'il y a des choses?
Ce que j'ai appris, c'est un peu triste même, c'est que les gens, ils lisent des titres et regardent des photos.
Ouais.
Le texte, malheureusement, enfin, je pense qu'il y a encore des lecteurs, heureusement, qui lisent et qui rentrent vraiment dans le profond dans le texte, mais beaucoup, ils lisent en diagonale. Donc, en fait, il faut passer des bons messages ou les messages clés
dans le titre,
dans les sous-titres, entre guillemets, et dans les images. Donc, c'est vraiment ça que quelqu'un va retenir quand il lit un article. J'ai aussi appris qu'il faut mettre énormément de liens et il faut toujours mettre des liens vers son propre contenu. Enfin, il faut toujours avoir un call to action un peu dans le texte. Mais après, sur les sujets, c'est marrant parce que je pense que l'écosystème a tellement changé. À l'époque, on pouvait se permettre de publier des articles sur les levées de fonds de 500 000, même moins.
Maintenant, ça n'a plus de sens.
Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent ici, ça serait impossible. À l'époque, on pouvait tout couvrir. Il y avait un produit qui se lançait, on avait un événement qui se faisait. Enfin, on était capable de tout faire. Et c'est génial. Aujourd'hui, il y a trop de choses.
C'est un peu grâce à toi en plus. Et tu as été dans l'obligation d'embaucher des gens ou d'avoir des personnes qui travaillent en freelancing pour toi, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, tu ne pouvais pas couvrir. En plus, tu étais étudiante quand même en même temps.
En effet, et tout le monde était bénévole. J'aurais bien aimé pouvoir les payer, mais on n'avait pas les moyens. Donc moi, c'était ma responsabilité d'écrire, je pense, c'était 90 articles par mois.
Énorme.
Plus de 2 articles par jour.
C'est énorme.
Et en tant qu'étudiant à temps plein, c'était juste pas possible. Donc j'ai embauché des gens, entre guillemets. Et ceux que ça a aussi ouvert les portes pour eux, parce qu'on a dit, on va pas distinguer entre les gens, entre guillemets, payés, pas payés. On va juste dire tout le monde travaille pour TechCrunch, tout le monde a les mêmes droits. Et voilà, c'était un peu comme ça que fonctionnait.
Génial. Bah écoute, en tout cas, bravo pour ce gros succès. Et donc, est-ce que tu peux me raconter comment tu passes de ce statut d'étudiante TechCrunch, quand même étudiante et en même temps rédactrice en chef de TechCrunch, à ensuite Microsoft, qui vient de chercher aussi, là, une fois encore.
Oui, donc j'ai fait une année à Sciences Po à Paris et ensuite j'ai dû partir pour la deuxième année de mon master à Londres. Et à la fin de mes études, je voulais continuer à bosser pour TechCrunch, mais c'était au moment du rachat, c'était très compliqué. Je pense que le fondateur Michael Harrington, il est parti à peu près au même moment aussi. Mm-hmm. Ça commençait à être un peu n'importe quoi. Et la France, c'était pas leur priorité. Donc, ils ont dit, on peut pas te garantir le visa, ni un salaire. Enfin, c'était pour moi, OK, on s'arrête là. J'ai travaillé du coup pour quelques startups à Londres, mais c'était encore, moi, j'avais envie de vivre en France. J'avais l'impression d'avoir commencé quelque chose ici que j'ai pas pu terminer. Donc, je restais en contact un peu avec le milieu. Je pense que je venais encore ici de temps en temps. Je faisais des conférences et tout. Et Microsoft, ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer tout ce qui était relation avec des startups en France. Donc, ils m'ont contacté. C'était pile au moment où une des startups pour lesquelles je travaillais était en train de se fermer.
Oui, parce que tu as fait tu as bossé en startup finalement. On oublie de le préciser, mais tu as travaillé quand même. Tu as eu aussi un rôle opérationnel dans des startups.
Ouais, et donc là, c'était une startup e-commerce qui faisait des box d'abonnement de maquillage.
D'accord.
Qui n'avait pas trop marché. Et du coup, c'était 9 mois, 10 mois, on était en train de fermer la boîte et Microsoft m'a contacté, m'a dit, on cherche quelqu'un pour ce poste, est-ce que ça t'intéresse? Et c'était pile ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai accepté, après avec toutes les histoires de visa, de je sais pas quoi, ça a mis un peu de temps. Et je suis arrivée officiellement en France avril 2013 avec le visa et tout ce qu'il fallait. Et j'ai commencé à travailler sur les programmes BizSpark et Microsoft Venture.
Et alors, du coup, quel était ton rôle exactement dans ce cadre-là chez Microsoft?
Donc, Microsoft, en gros, c'était de gérer tous les programmes d'accompagnement pour les startups. À l'époque, BizSpark existait déjà et Microsoft Venture n'existait pas. Quand je suis arrivée, je pense que c'était le moment de lancement de Windows 8 et ils se posaient les questions de comment on fait pour faire venir les startups sur Windows 8. Est-ce que ça a du sens? Et en fait, après réflexion et plein de discussions, on a décidé, c'est peut-être mieux d'accompagner des startups plus sur le cloud de Microsoft et de faire quelque chose beaucoup plus complet. Donc, lancer un accélérateur, mais où on ne pousse pas les startups que sur les choses Microsoft, mais aussi on fait vraiment un accompagnement sur tous les sujets.
C'est ça, j'allais te demander la démarche en fait pour Microsoft, parce que pour ceux qui ne connaissent pas BizSpark, en fait, c'est un accélérateur de startups en fait, qui était basé à Paris. Et puis Microsoft Ventures, pour le coup, c'est du seed, donc c'est de l'investissement de Microsoft. Quelle était la démarche un peu de Microsoft et pourquoi finalement ils avaient envie de faire ça?
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est BizSpark, c'était un programme qui existait depuis quelques années, mais c'était à distance. Donc c'était sur un portail, n'importe qui pouvait se connecter. Ils avaient accès à tous les logiciels Microsoft. D'accord. Il y avait plein de ressources supplémentaires, mais on rentrait jamais vraiment en contact avec ces startups-là. Ouais. Donc, c'était un peu dommage.
Oui, c'était du cloud, en fait, quasiment
et
déjà.
Et plein d'autres trucs, mais en fait, on ne voyait pas ces startups et la relation était assez faible. Et là, si on voulait vraiment rentrer en contact avec des belles startups et bien vérifier que le développement sur les produits Microsoft se faisait bien, il fallait les voir, il fallait les coacher, il fallait être là tous les jours, il fallait donner plus que juste du Microsoft. Et c'était ça, la démarche de Microsoft Venture. Donc, on a lancé avec un petit espace de 300 mètres carrés dans le sentier.
Ouais.
Je précise 300 parce qu'aujourd'hui, c'est
on voit
différent.
À Station F que c'est un petit peu plus grand que 300 mètres carrés.
Et du coup, on a commencé avec une dizaine de startups. Et là, on a aussi, entre guillemets, pivoté le modèle de Microsoft Venture parce qu'on a commencé avec des startups qui voulaient créer un prototype.
Ouais.
Et on s'est rendu compte que c'est vraiment très, très difficile, très compliqué. Les gens se posent beaucoup de questions. Il y a plein de boîtes qui créent quelque chose. Après, ils lâchent complètement le projet. Donc, après quelques mois, on a dit, on va plutôt accompagner des boîtes qui ont déjà un proto et qui vont continuer sur la levée de fonds et de développement de leur boîte. Parce que là, on est sûr d'avoir des gens qui sont vraiment dédiés.
Un peu moins early que...
Voilà.
Early
et donc, c'était sur ça qu'on avait bien travaillé. Et à la fin de temps, à la fin des 3 ans que j'ai passé chez Microsoft, c'était à peu près 60 boîtes qu'on avait accompagnées via le programme.
Génial. Ouais. Et alors, toi, tu avais aussi un rôle, j'imagine, sur la sélection des startups que vous alliez incuber.
En effet.
Pas facile, j'imagine. Oui. Vous aviez un board, comment ça se passait?
Donc la sélection, j'essaie de me rappeler comment ça marchait à l'époque. On avait des dossiers qu'on recevait en ligne. On avait, en triait. Donc j'avais peut-être la moitié qui passait sur le premier entretien qu'on faisait par téléphone, une demi-heure d'entretien avec chaque startup. Et après, une vingtaine qu'on gardait pour rencontre physique.
Ouais.
On avait commencé en se disant qu'on va recevoir chaque entreprise pendant 30 minutes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, 10 minutes,
ça
vraiment
suffit.
Des choses très, très serrées. On demande aux gens d'être synthétiques, de bien présenter les projets. On ne pose pas trop de questions et on y va. Ça permet en fait de bien juger les gens.
Ah oui,
qu'est-ce
c'est
que
sûr.
Eux ils mettent en valeur, en avant, voilà comment ils se présentent. Et on faisait tout en anglais.
Ah ouais.
Pas évident. Et ça marchait en fait très bien, mais on passait quand même quelques jours. Je pense que c'était 2 ou 3 jours. On avait des fonds d'investissement, des gens qui nous accompagnaient aussi sur la sélection. Mais c'était super intéressant en tout cas.
J'imagine. Ouais. Et alors du coup, quels seraient un peu tes conseils pour quelqu'un qui, si aujourd'hui, tu le fais aussi maintenant avec Station F, mais quelqu'un qui veut pitcher à Roxane Varza aujourd'hui, ça se passe comment? Quels sont les conseils pour que ça marche?
En fait, j'adore rencontrer des startups et je rencontre énormément de startups, mais ce que moi je cherche, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi les gens ont décidé de quitter leur travail ou de se lancer dans tel projet et pourquoi ce sujet en particulier, pourquoi cette personne en face de moi est la bonne personne pour faire ce sujet. C'est ça que je cherche. Donc, est-ce qu'il y avait à un moment donné, je ne sais pas, une histoire personnelle, la personne était impactée? Est-ce que quelqu'un a eu, je ne sais pas, passé une dizaine d'années dans une grosse boîte et finalement comprend le sujet mieux que tous les autres? C'est vraiment ça que moi je cherche. Je cherche l'histoire finalement. C'est peut-être mon côté journaliste.
Ça doit être ça. Mais bon, non, mais c'est clair que c'est hyper important. Moi, je vois bien, quand aussi je peux parler à des entrepreneurs, en fait, tu sens malgré tout la passion de quelqu'un qui fait ça parce que juste... c'est un peu ce que tu racontais quand tu disais que toi, le Tech Baguette, à minuit, le jour du Nouvel An, en fait, t'étais tellement passionné par ton projet qu'en fait, t'avais envie de faire ça. Et en fait, on le sent parfois, et je suis d'accord avec toi, parfois en 10 minutes, ça suffit pour le sentir. Et effectivement, il faut vraiment aller chercher cette passion-là chez les gens. Et j'imagine que c'est ce que tu faisais un petit peu. Et tu te faisais quand même accompagner sur... Vous regardiez un petit peu un business plan ou ce genre de choses, ou c'était vraiment uniquement...
En fait, on avait le dossier en ligne où les gens présentaient bien le projet, l'équipe, montraient un peu le proto et tout ça. Et après, quand on recevait l'équipe pour les 10 minutes, ils avaient 5 minutes de pitch et il fallait montrer une démo de produit.
D'accord.
Donc là, on avait 5 minutes pour tout expliquer, montrer le produit et après, on avait quelques questions et c'était terminé.
Et vous aviez un prisme produit, c'est-à-dire que c'était justement plutôt tech et cloud, SaaS ou
pas forcément. Pour Microsoft, l'objectif, c'était des gens qui pouvaient utiliser le cloud de Microsoft.
Ouais.
Donc, s'il n'y avait pas cet angle-là, c'était un peu compliqué.
Ouais, j'imagine.
Ouais.
Et donc, tu dis, vous avez incubé au total 60...
Pendant que moi, j'y étais, on a fait 60 startups.
60 startups.
Et encore plus après mon départ.
Et donc, en fait, comment ça se passait pour les startups? C'était un an d'incubation ensuite où il y avait...
Même pas. 3 mois.
Trois mois.
Ah ouais, c'est accélération plutôt.
C'est de l'accélération. Et du coup, vous les coachiez, comment ça se passait? Il y avait des interventions de personnes extérieures.
Oui, donc il y avait plein de choses. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le contenu non-tech, du coup, parce qu'on avait des équipes tech qui venaient pour l'accompagnement sur le cloud et sur les différents sujets. Donc, tout ce qui était levée de fonds, on avait plein d'investisseurs avec lesquels on travaillait. On avait même un cabinet levée de fonds qui était là pour nos startups. C'était Pascal Mercier.
Ouais.
Qui est assez connu dans le milieu, qui accompagnait des startups à l'époque. On faisait venir des entrepreneurs expérimentés pour partager vraiment leurs expériences. On avait un réseau de mentors. On faisait du matchmaking aussi.
Ça, c'est top.
Ça, c'était quelque chose... Parfois, ça marchait. Parfois, ça marchait moins bien, forcément.
Il faut tomber sur les bonnes personnes, mais quand ça marche,
exactement.
Ça peut être vraiment génial.
Donc, il y avait plein de choses comme ça qu'on avait mis en place. Et puis, beaucoup d'événementiels aussi pour que les gens y se rencontrent et que... Je ne sais pas s'ils avaient besoin de recruter quelqu'un. Voilà, on faisait venir des bons profils et ce genre de choses.
Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que tu as développé finalement cette compétence qui, et c'est une très belle transition vers Station F, qui t'a permis d'organiser à la fois des événements, recruter des startups aussi. Il faut aller les trouver malgré tout, j'imagine. machines, savoir les sélectionner et puis faire toute la vie qu'il y a autour. Parce que même si c'était à plus petite échelle dans le cas de Microsoft, j'ai un peu l'impression que quand même c'était assez similaire à ce que tu fais maintenant pour Station F, ou je me trompe?
C'était des bases sur lesquelles j'ai développé un peu à partir de ce que j'avais connu avec Microsoft. Enfin, quand on y était, on avait beaucoup regardé les différents modèles qui existaient, TechCrunch, Y Combinator, TechCrunch, Techstar. Et aujourd'hui, avec Station F, on regarde beaucoup les différents modèles. Enfin, quand j'ai commencé, même Xavier m'avait demandé avant d'accepter le job, d'aller visiter les différents pays, de voir ce qui existait sur le terrain, de donner quelques feedbacks. Et c'est avec ça qu'on a commencé. Donc Microsoft, forcément, ça rentre là-dedans.
Bon, alors tu as utilisé le mot Xavier. Donc on va parler de Xavier maintenant. Comment est-ce que Xavier Niel est venu te chercher? Comment ça se passe le jour où, je ne sais pas, il t'envoie un mail ou il t'appelle? Xavier Niel t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me raconter?
Je me rappelle le premier mail que Xavier m'a envoyé. Je pense que j'ai arrêté et fermé mon ordinateur. Je dis, la journée s'arrête là. Non, en fait, j'ai rencontré Xavier quand j'étais chez TechCrunch en 2010 à Microsoft. Donc, tous les acteurs sont là dans l'histoire. Il est venu pour un événement où Steve Ballmer était en France. Et je pense qu'il y avait lui, Steve, Marc Simoncini, Jacques Antoine-Grandjean. Il y avait beaucoup de gens qui comptent beaucoup dans l'écosystème à Microsoft pour l'événement. Et du coup, à la fin de l'événement, tout le monde commençait à me présenter. Et j'ai senti que c'était un moment un peu presse. Donc, les gens, parfois, ils étaient tendus. Ils n'avaient pas trop envie de parler. Je vois Xavier qui est en train de partir. Je dis, je ne vais même pas essayer. Enfin, ce n'est pas la peine. Il est pressé. Il ne va pas me parler. Et j'ai Auriel Ohayon, l'ancien rédacteur en chef de TechCrunch France, qui m'a présenté. Il m'a dit, Roxane, tu connais pas Xavier? Et j'ai dit, moi, non, je vois très bien qui c'est, mais je pense qu'il me connaît pas. Il me dit, non, toi, tu fais TechCrunch, je connais très bien, j'ai lu tes articles, bravo. Bravo de Xavier. Première fois que je rencontre Xavier, il me dit ça, ça a fait ma vie. Et du coup, on est resté en contact. De temps en temps, il m'envoie des mails. Et quand il a commencé à réfléchir sur Station F, il m'a contacté aussi.
D'accord. Et donc, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'il t'a demandé pour Station F? Enfin, j'imagine qu'il t'a parlé du projet. Lui, il avait une vision. Enfin, en quelques chiffres, Station F, c'est 34 000 m² d'après ce que je comprends. C'est des budgets au départ, en tout cas de 200 millions. Enfin, c'est absolument colossal. C'était censé être, dès le départ, je crois, l'un des plus grands incubateurs au monde de start-up. 1000 start-up incubées. Est-ce que tout de suite, il t'a balancé ça? Ou est-ce que quand même, il est monté en puissance pour pas trop t'impressionner? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il avait une idée précise de ce qu'il voulait de toi aussi?
Je pense que la première fois qu'il m'a contacté pour Station F, je savais pas qu'on parlait de Station F. Il m'a dit, j'ai un projet, c'est un grand espace de start-up. J'ai besoin de quelqu'un qui peut aller visiter d'autres espaces et me dire, c'est quoi les tendances, c'est quoi tes impressions, tes idées. Je dis, pas de problème, je suis actuellement à San Francisco, donc je peux faire ici. Et après, je connais bien Londres, je peux faire un peu les différentes villes en Europe, mais j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Et donc, je pense que j'ai fait quelques vignes comme ça et j'ai envoyé une petite note avec des bullet points. Je sais pas, il y a tel espace. Les grosses tendances que je vois, c'est ça en termes de déco, c'est
d'accord,
en termes de l'offre.
T'as plutôt commencé par faire un benchmark en fait des incubateurs.
Un petit benchmark, mais j'avais vu des espaces. Enfin, j'allais même voir des sièges des différentes startups parce que parfois ils proposent des trucs improbables. Le campus de Google, par exemple, à Mountain View, ils ont je sais pas combien de cuisines ils avaient à l'époque. Enfin, il fallait présenter des choses comme ça. Je pense le siège de Box avait une salle musique. Enfin, j'ai partagé un peu ces histoires-là. Et j'ai envoyé le petit mail, je ne savais pas à quoi ça allait servir. Il me dit, viens rencontre mes architectes. Et OK, why not? Je comprenais pas la moitié des mots qu'il utilisait à l'époque. Il m'a montré un gros bâtiment. Il m'a dit, t'en penses quoi? Je dis, je trouve ça génial.
C'est magnifique.
Je pensais que c'était par politesse qu'il m'a demandé mon avis. Et après, il m'a dit, si ça t'intéresse, tu peux travailler sur le projet, t'as envie de faire quoi? Et j'ai dit, tout. Ok, go, tu peux tout faire.
D'accord. Et quand tu as dit tout, tu savais ce que ça signifiait ou franchement, tu as été un peu pris de court par l'ampleur que ça a pris?
Je voulais prendre le plus de place possible, même si ça me faisait peur, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais j'ai dit, de toute façon, Xavier, il sait ce qu'il est en train de faire. Il va me limiter s'il faut. Donc
c'est vrai,
je vais
que
dire
cet
tout
appui.
Et après, je vais voir ce qu'il me donne.
Et justement, ça m'intéresse parce que ça peut arriver dans une carrière ou dans une vie où tu as une opportunité incroyable et parfois, on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur ou de... face à l'ampleur, juste de pas bien faire. Enfin, voilà. Est-ce que tu as eu ce moment quand même de doute où justement tu t'es dit « Non mais c'est bon, il y a Xavier, en tout cas c'est une once in a lifetime opportunity, il faut que je le fasse. » Qu'est-ce qui t'est passé? Est-ce que tu as eu quand même un moment de doute, quoi?
Ah, bien sûr, bien sûr. Je me disais, en fait, je suis en train de dire oui, mais j'ai jamais vu de description de poste. Il y a pas de fiche de poste. J'ai jamais envoyé mon CV. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour le faire? Est-ce qu'il sait ce que je suis capable de faire et pas capable de faire? Mais je me disais, enfin, je vais tenter. Si ça marche pas, ça marche pas.
Oui,
c'est pas grave.
Pire,
et c'était un peu la même situation avec TechCrunch. Quand Mike m'avait proposé le truc, j'ai dit oui. Et le lendemain, j'ai fait ah, maintenant il faut écrire. C'était exactement la même chose avec avec Station F, sauf que je sentais que Xavier, il savait ce qu'il voulait faire et je pensais que s'il fallait mettre des limites, s'il fallait dire non, il allait le faire.
Mais toi, du coup, tu étais plutôt dans l'état d'esprit de te dire je le tente et mieux vaut vivre avec des remords
exactement,
qu'avec des regrets.
Exactement.
Et je le fais et puis tant pis, tu vois. Si ça marche pas, il serait capable de
dire
non. Si il
rigole et il dit no way, ça serait jamais toi, bah là j'aurais compris, au moins j'aurais testé.
C'est génial, c'est une belle leçon de vie en tout cas. Et alors, du coup, comment ça s'est passé au début? Donc, tu as commencé tout de suite par la partie un peu immobilière, quoi, d'après ce que j'ai lu.
Oui. Quand j'ai commencé, c'était fin 2015 et le bâtiment était toujours en travaux. Je pense que ça faisait un an qu'on était en travaux. Je venais ici, il y avait la terre partout, des machines. Je comprenais vraiment pas tous les sujets, vocabulaire.
Il y avait quand même un chef de chantier qui était là
forcément,
pour gérer le chantier.
Forcément, je n'étais pas ça pour gérer le chantier. Mais en fait, il fallait bien comprendre les différents choix parce que ça impacte l'exploitation.
Bien sûr, ça impacte
les espaces de travail. Est-ce qu'on avait, par exemple, assez de prises? Est-ce qu'on avait assez de salles de réunion? Est-ce que les salles, les espaces étaient bien agencés? Les espaces événementiels? Enfin, il fallait connaître un petit peu pour aussi mettre en place ces offres.
Et ça, comment tu as fait d'ailleurs pour te renseigner? Parce que moi-même, ne connaissant rien à l'immobilier, je m'imagine que dans ce genre de cas, je serais complètement paumée et que j'aurais envie peut-être de me faire conseiller. Alors, j'imagine que le chef de chantier t'aidait, mais tu as été sollicité des experts,
t'as lu des livres. Ce qui est drôle, c'est que les personnes qui travaillaient pour le chantier, ce n'étaient pas non plus des experts des espaces start-up. Donc, eux, ils étaient en train de créer un bureau. Et ils avaient forcément, ils sont allés voir des différents espaces, ils connaissaient un peu Google, je pense qu'ils sont allés voir The Family, Numa, enfin. Mais ils avaient pas, ils ne sont pas allés voir tous les différents espaces que moi j'ai connus. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai vu, il y avait quelques petits trucs où je me disais, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie de faire? Est-ce que ça va poser problème? Et on apprend forcément avec l'expérience des autres. Donc, je suis allée sonder tout le monde que je connaissais autour de moi. Même des start-upers, je pense que j'avais parlé par exemple avec Daniel Marley, le fondateur de Deezer. Il m'avait dit, en fait, pour chaque plateau de 50 personnes chez Deezer, on a tant de salles de réunion, tant d'espaces de téléphoner. Enfin,
donc, tu as eu quand même quelques chiffres aussi pour pouvoir quantifier, avoir un peu des quotas.
Exactement, j'ai sondé énormément de personnes. J'ai demandé quels étaient les problèmes avec les autres espaces qui existaient. Je suis allée voir le Factory à Berlin. Ils m'ont parlé de leur lancement, tous les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Donc, je connaissais un peu le risque. Je connaissais les problèmes qu'ils avaient rencontrés les autres. Donc, ça m'a pas mal, mais il fallait aussi faire venir des startups à un moment donné et demander aux startups, vous avez envie de quoi, vous travaillez comment et qu'est-ce qui est adapté. Et ce qu'on a appris, c'est en fait, tout le monde veut plein de choses différentes.
Et donc, pas de bonne réponse.
C'est bien d'avoir plein de choix différents.
D'accord.
Ouais.
Et du coup, quels sont les incubateurs, par exemple, qui t'ont le plus inspiré? Donc, tu m'as parlé plusieurs fois de Google. Ouais, après, c'est tellement énorme aussi Google que c'est difficile de... Enfin, j'imagine, il y a certaines choses peut-être chez Google spécifiquement qui t'ont plu.
Bah, Google, ce qui m'a un peu, entre guillemets, inspiré. Enfin, je suis allée voir le campus à Londres, je suis allée voir le siège à San Francisco. Mes parents sont à 5 minutes. Ce qui m'a toujours intriguée, c'est le nombre de différents services proposés, surtout au siège. Ils avaient à un moment, je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ils avaient 16 cuisines, ils avaient des coiffures, des gens qui gardaient les chiens.
C'était une ville dans la ville.
Ils avaient des navettes qui passaient de San Francisco. Enfin, ils avaient tellement de services, ils avaient tellement bien pensé les choses pour que les gens, ils n'aient rien à faire, sauf venir au travail, travailler, rentrer chez eux. Et donc ça, c'était impressionnant de voir tous les services qu'ils ont mis en place. Le campus à Londres, c'était intéressant. Je pense juste de voir comment ils ont mis plein d'acteurs dans le même bâtiment. Ce n'était pas forcément ce qu'on voulait faire avec Station F. Et après aussi, je pense que The Factory à Berlin, c'était juste intéressant de voir un espace, parce que je pense qu'ils font la moitié de la taille de Station F, 15 000 m², ou à l'époque c'était le cas. Mais juste de voir comment ils ont réussi à faire venir plein d'acteurs dans un espace qui est assez éclaté. Berlin, c'est tellement grand que les gens se perdent. Donc, il y avait quand même des similarités comme ça qu'on avait regardées. Et puis, j'adorais voir aussi des espaces comme à San Francisco, il y a une banque, Citibank, qui a été transformée en espace start-up, mais ils ont gardé un côté banque, côté café et côté start-up, tout ensemble. Donc, il y avait des espaces un peu original comme ça qui m'ont bien inspiré aussi.
Et donc, toi, tu travaillais en parallèle sur la conception, mais aussi sur la sélection des startups qui allaient venir, parce qu'il fallait assez rapidement faire venir ces fameuses 1000 startups quand même.
Oui, donc ce que moi, je savais quand j'ai commencé le projet, Xavier, il savait qu'on était là pour aider les plus jeunes startups.
Ouais.
On était là
ça,
pour
c'était
aider...
d'emblée, c'était clair
ça,
que c'était clair. Vraiment.
Ça, d'accord. C'était clair. Les plus jeunes startups, déjà aussi, l'espace se prête mieux à l'accompagnement des jeunes. Mmh. Tout le monde n'a pas envie d'être dans un open space et on a appris les startups de moins de 3 ans sont les startups qui ont le plus envie d'être dans ce type d'espace. Et ensuite, Xavier savait aussi qu'il voulait une volume de startups, à peu près 1000 startups. à part ça, on ne savait pas comment on allait gérer ça. C'était quoi l'offre qui était le mieux adaptée? Est-ce qu'on met des incubateurs ici? Est-ce qu'on sélectionne tout le monde nous-mêmes? Comment on gère ça? Mm-hmm. Donc, on commençait à réfléchir. Il y avait plein de gens qui étaient intéressés pour venir créer leur propre programme. Et on a décidé de partir sur un modèle un peu plus de campus.
Ouais.
Et c'est ça qu'on est devenu le campus de start-up et pas juste le grand incubateur.
Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Oui, non, bien sûr, c'est en fait, au final, pas vraiment un incubateur parce que c'est plus que tu as plein
ouais.
de...
On a 30 incubateurs.
C'est ça, vous êtes le plus grand groupe d'incubateurs, le plus grand campus de start-up de Paris. Et alors, les travaux, la partie création finalement du lieu, donc ça a pris combien de temps à peu près? Ça a pris quoi? Un an et demi? Deux ans?
Ça a pris deux ans et demi. On avait un petit retard à la fin avec un dégât des eaux assez important.
Oui, j'en ai entendu
parler.
Qui
nous a retardé de 3 mois, mais c'était un peu dans les délais qu'on avait envisagés, deux ans et demi.
Et pendant ce temps-là, tu construisais la structure en parallèle donc pour accueillir les start-up ouais. et créer finalement tous les programmes autour. Donc
ouais.
je sais que tout n'est pas terminé, que vous avez encore plein de projets, tu vas m'en parler. Mais comment t'arrivais à répartir ton temps un petit peu entre la partie vraiment création du lieu, decision making sur la partie immobilière et puis en plus toute la partie plus selection board, quelles startups on va faire venir, comment est-ce qu'on sélectionne les startups, qui vont être les personnes qui vont sélectionner les startups?
Bah, en fait, moi j'étais clairement là pour préparer le lancement. Donc j'étais pas là pour gérer les travaux, j'étais
D'accord.
pas là pour gérer la construction. Mais il fallait quand même garder, ouais, il fallait quand même regarder ce qui se passait, vérifier que tout se passait comme on voulait. Donc, on était plus impliqués que ce que j'aurais voulu, parce qu'il y avait tellement de choses à gérer.
Non, et mais, puis c'est ouais. génial d'ailleurs que tu aies pu donner ton mot à dire, parce que justement, on voit bien là qu'il y a un état d'esprit, très oui. novateur. Que
et puis, on est propriétaire, donc c'est pas comme si ouais. c'était de la location, on peut c'est juste ça. Demander un prestataire.
Faire ce que vous voulez, quoi.
Non, il faut vraiment bien gérer, parce qu'on veut pas se retrouver dans des situations difficiles par la suite. Donc là, on a beaucoup, beaucoup appris, mais j'avoue qu'on n'était pas assez nombreux pour gérer cette partie-là. Et sinon, le reste de l'équipe, aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes, mais je pense que j'ai embauché principalement sur tout ce qui serait accompagnement de start-up, les partenariats, l'événementiel, assez tôt, justement pour vérifier que le jour qu'on lance, on a tout ça déjà en place.
Vous étiez déjà prêt. Et si tu avais quelque chose à me dire, alors ça peut être dans le cadre de Station F, mais ça peut être finalement chez Microsoft à l'époque ou... j'ai l'impression quand même que c'était une période difficile, cette partie-là, où bah, finalement, tu avais cet énorme projet, tu avais cette pression sur les épaules. Est-ce que tu as eu un moment où tu n'en as pas souffert, mais où tu as eu des difficultés, où il y a eu des moments... Moi, je suis assez convaincue qu'il y a des... Bah, en plus, toi, en tant qu'importatrice du Falcon en France, je sais que ça te parle beaucoup, mais qu'il y a des moments où finalement, la difficulté va nous aider à nous dépasser, où on va réussir à rebondir et faire autre chose, et ça va nous apprendre. Est-ce que cette période-là a été une période formatrice pour toi, ou est-ce que peut-être une autre période a été une période formatrice où tu as senti des difficultés, même peut-être tu as eu des échecs qui ont fait que tu as appris des choses? Quel a été ton échec où tu as appris le plus?
J'en ai plein, j'essaie de réfléchir sur quel moment, de quel moment je parle. En fait, quand tu parles de difficultés, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué dans toutes ces années, TechCrunch, Microsoft, Station F, c'était le début de Microsoft. C'était très très dur pour moi. Les entretiens que j'avais passés pour avoir le job chez Microsoft, c'était fait sur Skype.
Ouais.
Moi, j'étais à Londres, l'équipe était ici. Après, j'ai passé, je ne sais pas combien de mois, en attendant le visa. Mon arrivée dans l'équipe, c'était juste pas fait dans les bonnes conditions. Je suis arrivée ici, j'ai découvert une grosse boîte où j'ai adoré mon expérience. Je pense que c'était tellement formateur. Donc, je ne peux pas dire que c'était une mauvaise expérience, mais le début, c'était... pas la liberté que j'ai connue chez TechCrunch.
Ouais. Où tu pouvais faire littéralement ce que tu voulais. T'étais,
exactement.
T'étais
j'étais
la chef,
plus journaliste. T'étais... journaliste, on est très sollicité, tout le monde veut proposer des choses. On est hyper gentil avec des journalistes pour des bonnes raisons. Mais chez Microsoft, c'était dur parce qu'on était aussi challenger. On n'était pas non plus le produit de choix des startups.
Bien
donc, je me suis retrouvée dans des situations un peu compliquées au début, perso et pro. Donc ça, c'était un moment assez difficile, mais je n'ai pas d'échec spécifique à souligner là. Non, je pense que
si... Mais tu dirais que ça t'a appris quelque chose quand même, cette période?
Bah,
peut-être
en fait,
justement sur le fait qu'il faut connaître mieux son équipe avant de se lancer.
Oui, bah déjà, je pense qu'au début, je me demandais est-ce que j'ai pas juste... j'ai vu le logo Microsoft et j'ai vu la France
ouais.
et j'ai dit oui. Je suis convaincue que c'était toujours le bon choix et j'ai fait le bon choix. Mais en fait, je pense aussi que les gens... peut-être la culture grosse boîte, c'était quelque chose que je connaissais pas.
Oui.
J'avais pas non plus bossé dans un environnement pur. Enfin, c'est une boîte américaine, mais c'est en France. Enfin, c'est un environnement assez français. Donc voilà, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. C'était juste des choses que j'attendais pas. Mais c'était aussi, je pense qu'il faut avoir un peu de structure dans sa vie. Et peut-être je refusais la structure quand
oui.
j'ai vu. Et je pense que c'est aussi parfois ce qu'on entend dans le milieu startup, c'est les grosses boîtes, c'est des grosses méchantes. Mmh. Nous, on est des petits gentils, mais en fait, un peu, on peut beaucoup apprendre aussi des deux côtés.
Bien sûr. Donc, ouais, bien sûr, bah, les processus et tout. Bah, d'ailleurs, moi, je le vois bien avec ma boîte, mais au début, tu pars, t'es tout petit, tout le monde fait un peu tout. Puis au bout d'un moment, il y a des rôles qui sont de plus en plus définis. Il faut apprendre à scaler les choses, il faut apprendre à déléguer.
Exactement.
Ça fait partie du jeu et c'est ça aussi qui fait que la boîte va marcher, quoi.
Ouais, donc, j'imagine ouais. que. Donc, voilà, c'était un peu ça. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses chez Microsoft, mais c'était peut-être dur sur le coup parce que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, mais c'est des choses qu'aujourd'hui j'utilise encore et je mets en place chez Station F. Donc.
Et alors sinon, si je reformule, parce que tu as vu tellement de startups dans ta vie maintenant, c'est quand même assez incroyable, est-ce que tu as vu des choses, des problèmes récurrents, des difficultés récurrentes ou des choses que des startups font de façon récurrente où tu as envie de tirer la sonnette d'alarme et de dire attention, je sais pas, ne vous associez pas trop vite, ne levez pas des fonds trop vite, enfin, peu importe à la rigueur. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu as vu, oui, tu vois un peu quelque chose qui vient de façon récurrente où tu peux donner un conseil
En fait,
à ceux qui nous écoutent.
Quand on faisait Failcon, parce que ça fait maintenant quelques années que je ne fais plus, mais il y avait des sujets qui étaient récurrents. Des gens qui, par exemple, pour la levée de fonds, en fait, il y avait beaucoup de startups qui disaient... les investisseurs en France, ils ne savent pas prendre des risques. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Si tu as un bon projet, les investisseurs viendront. Donc, on voyait beaucoup de startups qui préparaient mal la levée de fonds, qui ne ciblaient pas les bons fonds, les bons investisseurs, qui n'avaient pas une bonne stratégie, qui pensaient juste arroser tout le monde avec un truc, ça allait marcher. Mais en fait, non. On voyait des gens qui préparaient mal les développements à l'international, qui pensaient qu'ils pratiquaient les mêmes choses en France ailleurs. Je me rappelle une super histoire avec le fondateur de Spartoo.
Oui.
Pardon, qui racontait que quand il a lancé en Angleterre, il a découvert que, en fait, livraison en 24 heures ou des choses comme ça, c'est vachement important, alors qu'en France, on peut se permettre de
48 prendre heures, quelques, 72 heures, c'est pas grave, quoi.
Prendre quelques jours, voilà, on est tranquille. Là-bas, non. Donc, il y avait des petites choses comme ça où il était peut-être mal renseigné avant de se lancer là-bas. Il a appris de façon difficile. Donc, il y avait des histoires comme ça. Les histoires qui sont les plus difficiles à aborder, mais je pense qu'en les plus communs, c'est les histoires de fondateurs et d'équipes.
Oui, bien sûr.
Et ça, malheureusement, pour l'équipe, enfin pour la conférence Failcon, j'ai eu très très peu de gens qui voulaient vraiment raconter ce qui s'est passé avec leur fondateur. Enfin, c'est normal, mais c'est vraiment ça. C'est quand les postes sont mal définis, c'est quand il y a des conflits d'égo, c'est ce genre de choses que ça ne marche pas.
Ouais, c'est sûr. Bah, on en a tous vécu autour de nous. Et ça, toi, quand tu étais. Alors là, j'imagine à Station F, y a tellement de startups que c'est difficile à suivre. Mais quand tu étais chez Microsoft, tu as pu voir aussi des cas où vraiment tu as vu qu'une boîte passait de finalement tout va bien à y a un problème entre les associés. Et en fait, on.
Ah, j'en ai vu, ouais.
On décide de tout arrêter parce que juste ça ne fonctionne pas, quoi.
J'en ai vu. En fait, il y avait un vendredi, je ne me rappelle plus quand c'était, quelle année c'était, mais chez Microsoft, je voyais toutes les startups. Je pense au moins une fois par mois, j'ai fait ça un point. Juste pour savoir, vous développez comment, l'équipe va bien, c'est quoi les gros projets du moment. Et en fait, je me posais par exemple le vendredi toute la journée dans une salle et j'avais des startups qui filaient, qui me racontaient les différentes choses. Et il y avait une fois où j'avais l'impression d'être bureau de psy. Mon cofondateur, il est parti. Nous, on n'a pas réussi à lever de l'argent, on va fermer. Je sais pas, la moitié de l'équipe est partie. On va faire un pivot, mais ça ne marche pas. Enfin, c'était juste que j'ai enchaîné tous les sujets le même jour. Et en fin de journée, je fais... Waouh, c'est dur d'être start-up.
Ouais. C'est sûr qu'il faut être accroché. Ouais. Faut être accroché. Mais non, mais je te pose la question parce que bon, je suis complètement d'accord, les problèmes d'associés, ça revient de façon récurrente. Je suis assez convaincue qu'il y a quand même des choses, ou autrement des choses positives, réplicables, qu'on peut essayer de mettre en place. Et là, je pense que si je comprends ton conseil, c'est avant de vous associer ou dans la définition des rôles, surtout que vous avez entre associés, faites très, très attention, parce que le problème, c'est qu'à un moment, quand ça vous tombe dessus, le problème arrive et il arrive méchamment. Et c'est très difficile de s'en sortir. Est-ce qu'à contrario, tu as vu des personnes qui ont réussi à se sortir d'une affaire d'association difficile ou pour toi, en fait, une fois que ça commence, c'est fini?
Certainement, il y en a, mais je connais peut-être mal les histoires. Les histoires qu'on me raconte, c'est souvent quand ça se passe mal.
Ça se passe mal, parce qu'en plus, il y a de l'ego, il y a de l'affect. Après,
ouais. Sinon, je vois aussi des équipes. Enfin, il y en a plusieurs qu'on a vues chez Microsoft où je me demandais combien de temps ça allait durer. Et finalement, ça dure parce que je pense qu'il y a juste un fit et on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est comme ça que ça marche. Quoi.
Ouais, c'est sûr.
Donc, il y en a qui marchent.
Mais moi, je suis sûre. Une autre question sur, toutes les startups que tu as pu voir, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par tes conseils. Est-ce que tu vois une différence entre les startups américaines et françaises en early stage ou entre des fondateurs français? Est-ce qu'il y a certaines choses, d'ailleurs, que tu penses qu'il faudrait qu'on importe un peu plus aux États-Unis ou au contraire qu'on fait très bien en France, qu'il vaut mieux qu'on garde? Tu as remarqué ça?
C'est une très bonne question. J'ai l'impression que la culture start-up, c'est un peu international. Quand on rencontre des entrepreneurs, que ce soit aux États-Unis, en France, en Iran, je ne sais pas où, ils sont les mêmes. Ils ont la même ambition, ils ont la même envie de travailler, d'échanger les choses, ils utilisent les mêmes jargons. Enfin, la culture est la même. Je pense que les choses qui sont différentes, forcément, c'est tout ce qui est administratif ou le marché ou des choses qui sont imposées, mais je pense que dans la culture et tout ça, on est assez similaire. Ce qui a beaucoup changé en France, qui n'était pas le cas avant, c'était la façon de s'exprimer, de parler de sa start-up, de parler de sa passion, de parler de son ambition. C'était peut-être mal vu de dire « je veux être une start-up à une valorisation de temps, je veux gagner des millions, je veux être PDG, gérer une équipe ». Ce n'était pas des choses qui étaient forcément bien vues, mais je pense que ça commence à changer ou ça a bien changé. Et aux États-Unis, j'entendais ce genre de choses, mais ça me déplaisait beaucoup parce que c'était... On ne veut pas des gens qui innovent pour ces raisons-là. On ne veut pas juste entendre « écoute, je vais passer 3 ans, je vais gagner des millions, je vais me barrer, je ne vais plus rien faire ». Ce n'est pas ça qui fait rêver les gens.
Non, c'est pas pour ça que la plupart le font.
Et j'entendais ça souvent.
Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'en France, on a, on le sait, une relation au succès qui est un peu difficile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, c'est parce que j'aimerais un peu le rendre plus facile que les gens admettent plus facilement qu'ils ont envie de réussir et que ils ont de l'ambition, mais c'est pas pourtant que c'est une mauvaise chose aussi. Et je pense qu'en plus il y a plein de petites techniques pour y arriver. Justement, je vais faire un petit fire questions, des petites questions avant de terminer pour te laisser tranquille parce que je sais que t'as plein de boulot. Des petites questions qui me viennent en tête et j'en ai une. Comme tu m'as dit que tu aimais beaucoup la France et la littérature, parce que je sais en plus que ta grand-mère était poétesse ou est poétesse. Je voulais savoir quels sont les livres que tu as préférés, soit les livres que tu recommandes le plus autour de toi.
Les livres que je recommande le plus autour de moi.
Ça peut être du business, mais ça peut être de la littérature, tu vois.
Qu'est-ce que je recommande? J'ai lu le bouquin de Truman Capote sur « De sang froid », je crois, c'est en français le titre.
Je ne l'ai pas lu celui-ci.
J'adore. En fait, ils ont fait un film aussi sur sa vie. C'est aussi la personne qui a écrit « Breakfast at Tiffany's ». Je n'ai pas lu le bouquin, mais j'adore le film, j'adore l'histoire. Et je pense que le bouquin de « sang froid », ça m'a choquée. C'est tellement bien écrit. Il y a aussi des bouquins qui m'ont beaucoup marquée. Il y avait quelqu'un qui a vécu une histoire peut-être un peu similaire à la mienne. Funny and Farsi, c'est une Iranienne qui a grandi aux États-Unis, qui racontait un peu quand on grandit avec une famille iranienne aux États-Unis, c'est quoi les histoires drôles et qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on découvre. Donc ça, c'est un bouquin que j'adore. Pour tout ce qui est business, je suis en train de terminer 5 Dysfunctions of a Team et je trouve ça génial.
C'est quoi l'auteur?
Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur.
Je te demanderai, puis je le mettrai dans mes notes après.
5 Dysfunctions of a Team. Et en fait, on retrouve bien les différents... En fait, on rentre dans une situation d'une entreprise avec des personnages et des gens bien décrits. Et on retrouve un peu les personnes autour de soi dans le bouquin. Donc, moi, je trouve ça très, très drôle. Et ça me montre pas mal de choses que je peux mettre en place à apprendre pour aussi ma façon de gérer l'équipe.
Génial. Bah, écoute, je vais essayer de lire ça. Ça m'intéresse pas mal aussi. Je le mettrai dans mes notes. Une autre petite question, c'est je m'intéresse toujours un petit peu à ce que font les gens le matin avant de se réveiller ou le soir avant de se coucher. Ça m'intéresse toujours. Moi, je suis quelqu'un, je fais un peu toujours la même chose le matin. Je mange toujours mon même petit déjeuner. Je fais 3 fois par semaine ma course à pied, etc. Est-ce que toi, tu as des habitudes comme ça, des routines ou en fait, absolument pas? Ou au contraire,
j'aurais bien aimé dire quelque chose de sportif.
J'ai déjà sur podcast quelqu'un qui m'a dit, au contraire, moi justement, j'aime le néant des routines et j'aime le fait de me dire que tous les matins va être différent. Est-ce que toi, t'es plutôt comme ça ou au contraire, t'aimes bien
Maintenant, j'ai une fille. Donc
ça crée un peu des deadlines.
Ça, voilà, on a un peu des... On n'a pas autant de temps qu'on a aimé. Non, qu'est-ce que je fais En fait, je check mes mails dans le métro. Je déteste arriver au bureau et ne pas avoir vu mes mails.
D'accord. Donc en fait, toi, parce que tu sais, il y a plein de littérature qui disent, genre tout ce qui est Tim Ferriss et compagnie, il faut éviter de lire ses mails, il faut les lire genre 2 fois par jour. Toi, au contraire, tu lis tes mails tout le temps.
Tout le temps.
Mais surtout, en fait, tu les lis avant d'arriver au travail.
Oui, et en fait, si j'arrive au bureau, j'ai l'impression que je peux arriver sur place et avoir manqué quelque chose et je peux être mal préparée. Donc en fait, je lis tous mes mails avant d'arriver au travail dans le métro. Et en fait, ça me permet aussi d'apprécier le métro.
Oui.
Et en rentrant le soir, je ne lis pas mes mails. Souvent, je lis un bouquin où je suis en train d'apprendre des différentes langues en ce moment, où je fais quelque chose qui est complètement
D'accord, tu essaies quand même de te déconnecter le soir et de ne pas trop penser au boulot.
Pareil, je trouve qu'il faut rendre le métro une expérience un peu plus appréciable.
Ouais, c'est ça. sûr.
Donc j'essaie de profiter un petit peu, c'est quand même une
c'est
demi-heure.
C'est un peu ton sas de décompression. Quoi.
Voilà, exactement.
D'accord.
Donc ça, c'est peut-être les deux
et
habitudes.
Et ça t'aide le matin, justement, ça m'intéresse de lire tes mails avant de commencer, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent du fait que quand tu commences le matin, c'est bien de se mettre un peu une hiérarchisation des tâches et de prioriser, de savoir, OK, aujourd'hui, je me fixe un objectif de faire ces trois choses-là. C'est vrai que quand tu as tous tes mails en plus à descendre, ce genre de choses, c'est difficile. Et puis finalement, tu es plus en train de courir en avant, tu vois. Il y a une citation que j'aime bien, c'est « Either you run the day or the day runs you ». J'ai l'impression que si tu as lu déjà tous tes mails le matin, que c'est géré, en gros, effectivement, tu peux te concentrer sur ce que tu as vraiment à faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais proactivement ou en général, comment tu fais pour mettre en place tes objectifs de la journée ou de la semaine, je ne sais pas.
En fait, souvent quand j'arrive au travail, je sais que je vais passer moins de temps sur les mails parce que j'ai déjà tout vu dans le métro. Oui. Donc ça me décharge de ça. Souvent, je ne traite pas forcément les mails les plus importants. J'ai vraiment besoin de me poser. Je les trie un petit peu. Mais je réponds à tous où je peux répondre très rapidement et facilement. Je fais tout ça dans le métro. Comme ça, c'est fait. J'arrive ici, je sais que je vais avoir quelques rendez-vous. Et du coup, ça me permet de ne pas réfléchir et me demander qu'est-ce qui est dans ma boîte. En fait, un truc que je déteste, c'est les gens qui checkent leur téléphone en permanence.
Oui, bon, c'est sûr.
J'ai mon téléphone avec moi, mais souvent, je le mets...
Avec Snoop Dogg,
avec Snoop Dogg. Mais la face est sur la table. Comme ça, je vois pas les alertes, je vois pas les messages. Ouais. Et je préfère passer un peu plus de temps avec des gens autour de moi. Quand on est en réunion, on est en réunion, on n'est pas là à se connecter. Donc ça me permet de faire ça. Mais en effet, je n'ai pas d'autres astuces vraiment pour comment je m'organise, sauf que j'utilise mon agenda énormément et je bloque plein de moments pour gérer les mails où il faut vraiment bien
D'accord, donc tu prévois quand même à l'avance les moments où tu vas te dédier à telle ou telle tâche.
Exactement.
Tu te laisses
tout
pas...
est dans mon agenda. Je sais pas, une fois par mois, j'ai des alertes pour des différents moments bloqués pour les différentes choses. Donc, tout est dans mon agenda. Je sais que j'aurai le temps pour faire telle ou telle chose.
Et pour parler encore un petit peu productivité, après j'arrête, mais je trouve ça intéressant. Tu parlais des réunions. Effectivement, j'ai remarqué, tu mets ton téléphone à l'envers et déjà, je te remercie, c'est hyper respectful, je trouve, et c'est rare. Donc, vraiment, je trouve ça génial que tu le fasses, surtout que tu es très sollicité. Tu m'as dit aussi que tu ne réponds jamais à un téléphone que tu ne connais pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et est-ce que c'est. Enfin, j'imagine que c'est une décision que tu as prise, mais pourquoi est-ce que tu as pris cette décision?
Oui, ça, c'est. En fait, c'est marrant parce que ça revient au moment quand j'allais chez Microsoft et j'allais pas bien. En fait, j'avais l'impression que j'étais demandée partout. On me demandait de faire des rendez-vous, de répondre à ceci, cela, d'intervenir sur tel événement. Et en fait, je disais oui à tout. Et peut-être mon expérience chez Microsoft, ça m'a appris à dire non, ce qui n'était pas du tout évident pour moi. Mais en fait, j'ai dû développer en fait, une manière de dire non, une manière de traiter un peu les demandes que j'ai, parce que sinon, je n'arrive pas à gérer tout ce qu'on m'envoie, tout ce que je reçois. Donc aujourd'hui, la façon que je travaille, c'est principalement par mail ou par texto. Sur mon répondeur, je précise, il faut m'envoyer un mail ou un texto. Il y a des gens qui me laissent des messages, mais j'écoute pas.
Je l'ai fait et tu m'as pas écouté.
Sauf si c'est la banque, j'écoute pas. Si je sais que c'est la banque, j'écoute. Non, mais à part ça, aussi, toutes les demandes d'événements, la plupart, je ne fais pas, malheureusement. La plupart des rendez-vous qu'on me demande, je demande à la personne en avance de me préciser les sujets. Souvent, je peux juste répondre par mail. Ça me gêne pas que les gens me posent des questions par mail. Du coup, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant pour vraiment gérer les sujets, gérer l'équipe et gérer
les choses. Je pense que déjà ce que tu disais, savoir dire non, je pense qu'on a tous à apprendre de ça, moi la première, mais je sais que le nombre de fois en fait où tu regrettes quand même d'avoir fait quelque chose parce que tu dis finalement ce temps-là j'aurais pu l'affecter à quelque chose de beaucoup plus productif. Et je trouve que du coup cette petite technique de ne jamais répondre directement au téléphone sur des personnes que tu connais pas, c'est effectivement un très très bon point à prendre. Je reviens juste sur les réunions. Les réunions, du coup, donc, j'ai l'impression que pour les personnes dans ton équipe, c'est la même chose que pour toi. Du coup, a priori, les téléphones ne sont pas proscrits, mais on évite de les regarder. Tu as d'autres trucs ou pas pour que les réunions se passent bien? Parce que j'ai l'impression que tu les fais vraiment bien avancer. Dans ce que tu dis, tu as un temps qui est très cadré. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut avancer. Comment tu fais justement pour que la réunion soit la plus productive possible?
En fait, déjà, on fait des réunions principalement de 30 minutes.
D'accord.
Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est impossible. Comment on fait quand on faisait des réunions de chantier qui sont souvent 3 heures, Station F est présente que 30 minutes.
D'accord.
Donc là, on sait que les sujets que nous, on doit traiter en priorité. On ne peut pas passer 3 heures jusqu'à discuter dans tous les sens. De toute façon, on n'est pas expert du sujet. Mmh. Et on prévalide aussi tous les sujets de rendez-vous, des réunions avant d'y aller. Donc, il y a beaucoup de gens, peut-être parfois, ils sont frustrés parce qu'ils préfèrent qu'on les reçoive, qu'on les voit, qu'on discute, qu'on se rencontre. On ne peut pas avec
oui,
les demandes qu'on a.
Ça,
donc,
l'équipe
comme moi, on demande toujours à l'avance c'est quoi les sujets, est-ce qu'on peut peut-être faire un appel, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui est plus rapide. Si vraiment ça nécessite de se voir, on le fait, mais ça c'est vraiment une dernière option.
D'accord, bah c'est déjà une super, c'est déjà une super guideline. Tu peux te dire, tu te fixes 30 minutes, je pense que beaucoup de gens vont gagner du temps déjà si on fait ça. Ça marche. Bon, je te remercie mille fois. Avant de terminer, je voulais juste te demander s'il y a une chose ou un sujet. Enfin, sincèrement, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, que ce soit le Falcon, on en a peu parlé, Girls in Tech, Starter, on en a peu parlé, tes origines iraniennes et ce que tu fais pour les startups en Iran. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, dont tu aimerais parler, une cause pour laquelle tu es engagée, que tu aimerais. C'est le moment de parler.
Il y en a plein, là, tu m'as cité tous les projets que je fais en parallèle.
Peut-être qu'il y en a un autre que je ne connais pas.
Bah non, je pense que là, c'est un peu tous les autres sujets qui me passionnent. C'est un peu ce qui se passe en Iran aujourd'hui. J'ai reçu quelqu'un hier soir qui développe un mini-station F là-bas. J'ai découvert qu'il y a même une salle Xavier. ça m'a fait marrer, mais ça veut dire angle en persan. Ah. Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'il fait référence à Xavier. Sinon aussi avec Starter, qui était anciennement Girls in Tech Paris, enfin, on fait énormément de choses. Ça fait 8 ans maintenant que ça existe, j'arrive pas à croire.
C'est fou, hein.
Ça passe très vite, mais voilà, je vois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et aussi, je pense qu'en France, on a la chance de ne pas avoir connu les mêmes histoires qu'on a vues aux États-Unis, les investisseurs qui avaient du pouvoir, des petites histoires qu'on entend sur les personnes qui étaient assez bien respectées finalement dans le milieu. C'est un peu dommage, mais heureusement, on n'a pas encore entendu ces choses ici. Et puis aujourd'hui, je m'engage un petit peu aussi. Avant, c'était peut-être plus sur tech.eu. C'était un média qui parlait de tout ce qui se passe dans l'écosystème en Europe. Aujourd'hui, un peu plus avec la Commission européenne. Je travaille avec le European Innovation Council. Uh-huh. Et là, on essaie de retravailler tout ce qui est aide au niveau de la Commission, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément adapté aux startups.
Ouais.
Donc voilà, on est sur un gros projet là.
D'accord. Mais en tout cas, moi, de mon petit coin de table, j'ai vu tout ce que tu as fait avec Girls in Tech, maintenant Starter, donc en deux mots, qui est une association, je crois, à la base.
C'est une association
pour promouvoir les femmes dans la tech. Et sincèrement, que ce soit via des événements, via du coaching, du mentoring, des conférences, vous avez vraiment fait la même chose. La Lady Pitch Night, notamment, qui est un concours aussi qui a fait beaucoup parler de lui. Et on voit quand même qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la tech. C'est marrant parce que même dans le milieu du podcasting, par exemple, il y a de plus en plus aussi de choses qui se font pour promouvoir un peu les femmes. Et je trouve que vous l'avez toujours fait en plus avec beaucoup de finesse, parce que c'est pas non plus brut de décoffrage. Je sais pas quelle est ta position là-dessus, mais c'est à la fois, on veut montrer que les femmes sont capables de faire, mais c'est pas non plus affirmative action, au sens où c'est de la promotion intelligente, je trouve, et c'est pas se faire aux dépens des hommes, quoi. C'est vraiment juste tout le monde à sa place et on essaie de donner sa place à tout le monde.
Ouais, en fait, avec Starter, le constat depuis le début, on faisait partie d'un réseau qui était monté à San Francisco qui s'appelait Girls in Tech quand on a lancé. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais en fait, on voyait que le modèle utilisé par les États-Unis de faire des événements uniquement ouverts aux femmes, c'était pas forcément ce qu'on voulait faire en France. Ouais. On voulait être ouvert aux hommes et aux femmes. On estimait que faire un réseau fermé, ça va jamais faire avancer les choses. Et puis notre objectif, à l'époque, moi j'étais chez TechCrunch, Mounia était dans un fonds d'investissement. On voulait juste rencontrer et voir des femmes qui n'étaient pas présentes dans les autres conférences. Donc c'était juste une histoire de visibilité.
Qui étaient juste plus inspirantes et qui avaient.
Exactement.
Pas
et elles existaient. On savait qu'elles étaient là, mais elles n'étaient jamais invitées pour prendre la parole ailleurs. Donc on a dit, on va faire ces événements-là juste pour voir d'autres profils. Et de toute façon, c'est gagnant-gagnant parce que nous, on découvre des personnes. Et ces femmes, elles ont la parole et voilà, tout le monde est content. Et on l'a découvert petit à petit. Et en fait, il fallait changer un peu le modèle parce que maintenant, on a beaucoup, beaucoup de femmes. On a beaucoup de femmes aussi dans les conférences. On est devenu un peu la référence. Beaucoup de gens nous contactent pour demander qui sont les femmes qu'on peut inviter sur tel ou tel sujet. On a plein de noms qu'on recommande. Donc, on a lancé les 10 femmes à suivre qu'on publie chaque année. C'est 10 nouvelles personnes. Donc, souvent, les gens, ils regardent, ils disent, mais pourquoi il n'y a pas telle personne? Souvent, la personne était sur la liste précédente. Donc, on essaie de faire découvrir des nouveaux profils chaque année. Et on fait aussi la compétition. C'est maintenant devenu Starter Awards. C'est la plus grosse compétition pour les startups fondées par des femmes en Europe.
Oui, c'est dans toute l'Europe. Ça,
c'est dans toute l'Europe. Ça couvre 28 pays, si je ne me trompe pas.
Et à chaque fois, vous faites venir des personnes, enfin, des femmes qui viennent. Moi, je me rappelle, j'étais venue une fois, il y avait des personnes qui venaient de Lituanie.
J'adore, tu dis, je suis venue une fois, t'étais dans les finalistes. T'étais sélectionnée. Oui, mais il y avait des femmes, et même quand nous, on regarde les candidatures, on dit, c'est incroyable, parce que quand on contacte, par exemple, des accélérateurs et des VC pour demander qui sont les femmes, ils disent il y en a pas. Ouais, et ouais. Après, on a plein de femmes qui postulent des mêmes pays. Donc, elles sont là, elles existent. Et donc là, on est aussi là pour dire il y a plein de femmes, il y a plein de nouvelles femmes chaque année qui se lancent. Et c'est pas que Sheryl Sandberg, c'est pas que Marissa Mayer, il y en a plein d'autres. C'est vraiment pour ça qu'on est là.
C'est top. Bon, et pour terminer, est-ce que je peux te souhaiter quelque chose? Qu'est-ce que je peux souhaiter à Roxane Varza ou à Station F avant de vous quitter?
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Station F? Bah écoute, tout va bien.
Tout va très bien, ça c'est plutôt des bonnes nouvelles.
Tout va très
que ça
bien.
Continue alors
que
peut-être.
Ça continue, ouais.
Super.
Merci.
Bon. Bah écoute, merci beaucoup Roxane, merci de m'avoir consacré tout ce temps parce que je sais que t'es très prise, donc ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir accueillie à Station F. Là, on a des poufs orange, jaune, vert. Pour ceux qui sont jamais venus, je mettrai des photos sur mon petit blog. Roxane, une dernière question. Si jamais des personnes qui n'ont pas ton numéro de téléphone et qui veulent te contacter, veulent t'envoyer un petit message, moi je mettrai dans mes notes un peu tes détails, mais par exemple Twitter, est-ce qu'on peut te envoyer un petit message? Donc c'est
bien sûr Twitter, et sinon sur mon blog techbaguette.com,
ben voilà.
Je mets des moyens de me contacter pour les différentes raisons. Donc s'il y a des gens qui veulent aller voir page contact, tout est là.
Parfait. Donc je mettrai tout ça dans les notes. Merci
Super.
Beaucoup Roxane.
Merci.
À bientôt.
Avant de vous quitter, quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Roxane, lui chanter du Snoop Dogg en sérénade ou simplement voir les notes de cet épisode, c'est simple. Allez directement sur www.podcast-crème-de-la-crème.com et là, c'est rubrique podcast sans surprise. Vous verrez, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir, le contact de Roxane donc, les notes sur l'épisode et plein d'autres petits trucs sympas. Deuxièmement, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram avec le pseudo Pelaigneau, donc c'est @PLAIGNEAU, c'est mon Instagram et mon Twitter personnel, et je répondrai rapidement. Merci mille fois d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cette conversation vous a plu, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.